Bonjour et bel après-midi en ce dimanche 20 avril 2014. Bienvenue dans ce groupe de partage autour de la non-dualité, des enseignements non-duels. Nous sommes un certain nombre ici autour de cette table à Romainville. Nous allons partager avec un thème qu'on pourra reprendre si l'envie est là, de partager à propos de la peur de mourir, sachant que le thème c'est la non-dualité et que nous allons rattacher la peur de mourir à la non-dualité et donner notre ressenti en ce qui concerne comment cette peur de mourir est rattachée au fait comment on peut l'interpréter dans l'esprit de la non-dualité, dans l'esprit de ce qui dit « nous sommes un ». Voilà, alors j'ai l'habitude de commencer avec un petit gong. Je vais le chercher. Voilà, dans une écoute pure, nous commençons par un moment de présence à ce son. Merci. Voilà, nous avons un beau soleil aujourd'hui par ce dimanche pascal. Dans cette réunion, nous pourrons nous appuyer sur des ouvrages de non-dualité. Il y en a deux ici sur la table et il y en a vraiment beaucoup d'autres. Ce ne sont que deux parmi d'autres. Cependant, il y en a un qu'on cite souvent, il est assez majeur en notre époque, il s'agit d'un cours en miracle, un gros livre bleu de 1300 pages qui est en fait la compilation de trois livres en un seul. Le premier, c'est un enseignement théorique de 700 pages. Le deuxième, c'est des leçons pour la vie de tous les jours, une par jour de l'année pour pratiquer. Et puis le troisième, c'est un manuel pour les enseignants du cours en miracle, un cours manuel avec une clarification des termes. Voilà. Donc si vous avez des livres qui vous sont chers, ou si vous avez envie de citer un passage, c'est tout à fait possible. Il y a un deuxième livre qui est ici, qui moi me touche beaucoup, qui est beaucoup plus actuel, L'Évangile selon Jésus de Paul Ferrini. Voilà, je l'ai lu un certain nombre de fois. C'est sous-titré « Un nouveau testament pour notre époque ». Alors, je me réjouis de démarrer cette réunion que je n'ai absolument pas préparée. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire et c'est très bien comme ça. Et je sais que je serai guidé d'un bout à l'autre à dire des choses ou à ne pas dire des choses ou à me taire. Et pour être parfaitement guidé et continuer cette guidance-là, je vais citer cinq phrases que je cite habituellement, souvent dans ma vie quotidienne et au début de ces groupes-là. Elles apparaissent à la page 30 d'un cours en miracle et elles disent ceci. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces cinq phrases, mais en particulier la troisième phrase, ce n'est pas à me soucier de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger, parle beaucoup de cette confiance intuitive que je ne suis pas seul, hein, je suis ici accompagné, pour peu que je m'abandonne à ça, à cet accompagnement, à cette présence. Et voilà, je sais que là, juste au tout début, avant de citer les phrases, j'avais comme un vide, je ne savais pas retrouver la première phrase, et j'ai laissé cette première phrase m'être soufflée. Elle est revenue. Donc, je n'ai pas cherché à m'en rappeler, simplement, je l'ai laissée revenir d'elle-même, c'est tout à fait parfait comme ça. Donc dans ces réunions, nous nous appuyons sur une connaissance intuitive que nous partageons souvent et qui dit nous sommes tous connectés, nous sommes un. Sous des aspects séparés, nous représentons un seul, une unité, une unité parfaite. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de deux choses différentes. Nous parlerons de ce qui est relatif. Nos vies dans la matière, nos vies quotidiennes sont ce que j'appelle l'aspect relatif. Et nous parlerons aussi de l'absolu, hein, le fait que il n'y a que Dieu, hein, par exemple. Et nous sommes partie de ça. Et pour nous, c'est deux niveaux de perception que nous pouvons avoir et nous pouvons aussi alterner de l'un à l'autre. Dans l'un, le relatif, les choses sont éphémères, il y a la vie, il y a la mort, ben c'est un peu le sujet aussi du jour. Et dans l'autre, il n'y a pas de temps, c'est l'éternel maintenant, les choses sont constantes, inchangeables, invulnérables, rien ne peut jamais mourir, rien ne peut jamais changer ou se détruire. Il n'y a que l'amour, il n'y a que Dieu. Alors, dans ces réunions, nous parlons de spiritualité et pas de religion, même si nous employons, et j'emploie le mot Dieu, alors c'est dans son acception large. On peut tout aussi bien dire la source, on peut tout aussi bien dire tout ce qui existe, mon moi supérieur, etc. Ce n'est pas le mot qui a de l'importance, c'est plutôt la perception, la conception qui est associée à ce mot qui l'est. Voilà, et puis je vais introduire en quelques mots le groupe, et puis ensuite nous pourrons partager sur la non-dualité en général, la peur de mourir en particulier, sachant que j'ai choisi ce thème parce que c'est un sujet quasi récurrent chez la plupart des êtres humains, qui est un jour je disparaîtrai, mon corps cessera de fonctionner et je disparaîtrai du monde physique. Je ne serai plus là. Hein. C'est en tout cas dans l'aspect relatif ce que nous pensons qu'il se passe. Voilà, dans l'aspect absolu, Jésus, il y a 2000 ans, disait très souvent une phrase très courte, qui résume beaucoup de choses, qui résume en fait toute la non-dualité, si on peut penser qu'elle se résume, en seulement deux mots, il disait Dieu est. Et ça paraît très simple, très court, et pourtant, hein, ça concentre beaucoup de choses. On ne dit pas Dieu a été, on ne dit pas Dieu sera, hein, on dit Dieu est. Et lorsque nous disons Dieu est, nous sous-entendons, ou est sous-entendu dans cette phrase, Dieu est tout ce qui est, c'est-à-dire Dieu est la totalité de ce qui existe. Et puis lorsque nous continuons à faire résonner le sens de cette phrase, nous pouvons continuer avec Dieu étant tout ce qui est, ne peut s'opposer à rien, parce qu'il s'opposerait à lui-même, et que ça n'a pas de sens de s'opposer à soi-même, surtout si notre soi est tout ce qui est. Hein. Donc, est-ce que tout ce qui est peut s'opposer à tout ce qui est? C'est une phrase insensée, qui n'a pas de sens réel. Et Dieu ne s'opposant à rien est donc pur accueil. L'accueil, accueillir, c'est ne pas juger. Accueillir, c'est ne pas s'opposer. Et la plus grande partie des difficultés que nous rencontrons dans notre vie relative, notre vie terrestre, vient du fait que nous essayons de diviser la réalité. Nous avons des jugements, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est agréable, désagréable. Nous vivons dans l'aspect relatif qui s'appelle la dualité. Et donc, un des aspects de cette dualité, c'est le jugement qui dit « je pense différemment de toi » ou « ce que tu dis, je ne l'accepte pas, et c'est plutôt ma vérité qui est la bonne ». Et donc, quand je fais ça, je crée de la division, je crée de la séparation, et en fait, j'entretiens l'aspect séparé de ce monde par des pensées de séparation. Donc, évidemment, dans un monde d'unité tel que celui de Dieu est, pur accueil, ça veut dire non-jugement absolu. Ça veut dire que quoi que je dise, quoi que je fasse dans mon expérience relative ici, c'est accueilli par Dieu, c'est accepté par Dieu, ça n'est jamais jugé, jamais remis en question. Tout est possible, hein, tout est autorisé, y compris ce que nous appelons les drames, les catastrophes, les génocides, les viols et toutes les choses que nous appelons aussi affreuses. Voilà. Alors, comment relier la dualité et la non-dualité? C'est apparemment impossible, parce que c'est l'un est l'opposé de l'autre, l'un est ce que n'est pas l'autre, et c'est apparemment deux mondes qui ne communiquent pas du tout entre eux, qui sont disjoints. L'un est le domaine de l'ego ou la pensée de séparation, l'autre est le domaine de Dieu, de l'amour et la pensée d'unité. Donc c'est réellement deux mondes qui ne se rencontrent pas. On est soit dans l'un, soit dans l'autre. Peut-être dans ce monde-là, nous vivons le temps, nous vivons qu'il y a une certaine progressivité dans les choses. Alors peut-être dans ce monde du relatif, et vous pourrez exprimer votre ressenti, il y a une certaine progressivité entre se sentir dans la division, dans la séparation, et se sentir progressivement dans un sentiment d'unité, dans un sentiment de fraternité avec qui que ce soit, les humains, la planète, tout ce qui existe, les animaux, la nature. Voilà. Alors, nous avons fabriqué dans notre esprit une pensée, nous avons autorisé dans notre esprit une pensée de séparation, qui disait, dans un court moment de créativité peut-être, où le cours au miracle appelle la petite idée folle, nous avons un court moment pensé, que se passerait-il si nous n'étions pas divins? Hein, c'est une phrase qui visait à imaginer autre chose que ce qui est. Et le mot imaginer est important, puisque ce qui est, et c'est impossible que ce qui est ne soit pas, c'est impossible qu'il y ait autre chose que ce qui est. C'est un pur bon sens que de dire ce qui est, c'est la totalité de ce qui est, forcément. Mais nous avons voulu imaginer, si nous n'étions pas divins, que seraient les choses. Et à ce moment-là, une pensée de séparation est née dans notre esprit. Et parce que nous sommes dotés d'attributs divins, notre esprit est divin, notre esprit est très puissant. Et une pensée, quelle qu'elle soit, peut être dotée d'effets concrets et réels. Des faits concrets et que nous, nous pouvons percevoir comme réels. Hein. Ça n'est pas pour autant réel. Et donc à ce moment-là, nous avons fabriqué un monde illusoire qui a des aspects très flagrants de réalité, qui est l'aspect relatif que nous vivons. Nous avons fabriqué en même temps les outils pour se mouvoir dans ce monde, le corps, le temps et l'espace. Et nous l'avons fait en apparemment fragmentant notre esprit en une partie d'esprit divisé qui croit en la séparation. La question aurait pu tout aussi bien être que se passerait-il s'il y avait autre chose que l'amour, puisque Dieu est tout ce qui est, et Dieu est amour, ça revient aussi à dire l'amour est tout ce qui est. Donc, nous avons imaginé qu'autre chose que l'amour puisse exister, et à ce moment-là, nous lui avons donné des aspects très, très marqués de réalité. Alors, c'est parce que nous sommes divins que cette réalité semble à ce point réelle. Parce que nous pouvons altérer notre perception de manière tellement flagrante que nous pensons voir des choses, nous pensons entendre des choses, nous pensons toucher des choses, nous pensons goûter des choses. Mais en fait, tout cela est une perception. Et cette perception peut être réelle ou illusoire. Et avec notre esprit divin, nous avons créer ces perceptions illusoires et faire en sorte qu'elles paraissent réelles. Alors bien sûr, pour quelqu'un qui n'est pas sensibilisé à la non-dualité, ça peut être très effrayant d'entendre ça, ça peut être même révoltant, ça peut être aussi tout ce que je connais soudain est illusoire, n'existe pas, donc c'est ok de ne pas croire à ce que je viens de dire. C'est ok aussi d'y aller progressivement, et s'il y a bien un manuel pour aborder ces choses progressivement, c'est un cours en miracles qui est une sorte de guide qui nous prend par la main pour cheminer progressivement de l'illusion vers le réel, vers le monde réel de l'unité, du relatif vers l'absolu. Simon Leclerc, qui est aussi un enseignant canadien, disait une belle chose en métaphore. Il disait « Demandez à un poisson ce que c'est que l'eau et il aura beaucoup de mal à vous dire, à vous décrire l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il est tout le temps dedans et parce que pour lui, il ne se pose jamais la question. Il sait que l'eau existe, mais en même temps, il ne sait pas en parler. » À ce moment-là, sortez le poisson de l'eau et reposez-lui la même question. Et ce poisson pourra dire, décrire très précisément pourquoi il a tout à fait envie de revenir dans l'eau, pourquoi c'est vital, pourquoi c'est tout ce qui est important pour lui. Il sera beaucoup plus loquace à propos de l'eau. Et Simon Leclerc rajoute, pour les humains, l'eau c'est l'amour. Nous nous sommes extraits volontairement de l'amour pour avoir une sorte de contraste. Le contraste, c'est que se passerait-il si nous étions hors de l'amour. Et donc, en pensée, nous avons dit, projetons-nous hors de l'amour, inventons un monde illusoire où il y a un opposé à l'amour, alors que dans l'éternité de tout ce qui est, il n'y a pas d'opposé à l'amour. C'est l'amour sans opposé, c'est le bien sans opposé. Et donc nous avons, comme tirés sur un élastique. Hein, nous sommes accrochés, on peut dire, avec un élastique au monde réel de l'unité. Et nous nous sommes extraits en tirant sur l'élastique et en sachant que le simple fait de lâcher nous ramènera d'un seul coup à l'unité. Hein, c'est ce qu'on appelle chez, dans notre monde l'illumination ou le réveil, l'éveil, etc. Voilà. Aujourd'hui, nous parlerons des deux niveaux de perception parce que le niveau relatif, c'est le monde auquel nous croyons, auquel nous sommes habitués aussi depuis la toute petite enfance et je peux dire aussi depuis maintes et maintes vies, incarnation, rebondissement dans cette illusion terrestre et cosmique aussi. Et nous parlerons aussi en termes de perception de l'unité, parce que certains d'entre nous peuvent avoir cette intuition majeure qu'il doit bien y avoir une autre voie que celle de la vie terrestre, et que nous pouvons être beaucoup moins limités dans un autre plan de conscience celui de ce monde-là. Ça se traduit par des intuitions, des extases, des sages terrestres qui vivent une amplification de conscience et qui enseignent ça. Ça peut être aussi tout simplement une connaissance non expliquée, intuitive, qui est en nous et à laquelle nous croyons sans aucune raison logique. Sans aucune raison apparente. Nous sommes bien plus vastes que ce corps, que cet esprit logique. Hein. En fait, nous sommes un seul être avec 7 milliards de visages, en ce qui concerne la planète Terre. Un seul être qui s'est apparemment fragmenté en la multiplicité pour s'autoriser des expériences de dualité, pour faire des expériences où le contraste m'enrichit de vie en vie et j'apprends à devenir meilleur parce que je fais des choix qui impliquent le contraste. Quand je fais un choix d'être, je dirais, cruel et je vois les résultats que ça amène dans ma vie, par contraste, je peux abandonner ce type d'expérience pour m'améliorer, hein, parce que je vois que ça n'améliore pas ma vie d'être cruel ou d'être méchant ou d'être tout ce que nous appelons négatif, hein, tout ce qui est en dehors de l'océan d'amour apparemment. Donc cette dualité là n'est pas jugée, c'est une façon d'expérimenter une hypothèse, hein, une hypothèse qui est seulement une pensée, une petite idée folle qui dit « et si l'amour n'existait pas, et s'il y avait autre chose, hein, comment serait le monde, comment serait la perception ?» Et bien sûr, nous avons inventé ce qui est périssable, parce que par contraste à l'éternel, le périssable, c'est l'opposé. Par contraste à l'illimité, ce que nous expérimentons, c'est la limite, hein, sur cette terre. Et donc nous naissons apparemment, nous apparaissons dans ce monde sous la forme d'un petit être, nous grandissons aussi apparemment, nous faisons des expériences, et puis nous mourons apparemment. Je rajoute toujours apparemment, parce que dans le monde réel, tout ceci ne se passe pas. Hein. Dans le monde réel, Dieu est. Et nous sommes éternels, la vie s'écoule sans début ni fin. Alors bien sûr, nous n'en avons pas conscience dans ce monde. Et heureusement, je pourrais rajouter, parce que si nous avions conscience du monde réel, l'expérience de la dualité n'aurait pas duré une microseconde. Il fallait, entre guillemets, se voiler l'esprit nous voiler l'esprit pour oublier notre nature divine, pour que cette expérience devienne possible. Et je, même avec mon esprit logique, cartésien, je comprends cela. Je comprends que si tout d'un coup je pouvais manifester que tout est possible, tout est matérialisable, chaque pensée a des effets immédiats, alors jamais la dualité qui suppose que ce que je pense a des effets, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 20 ans, dans 50 ans ou dans une autre vie, alors évidemment que j'aurais choisi que les effets se passent maintenant avec mes pouvoirs divins, avec mes capacités divines. Et donc, nous avons voilé notre esprit et nous avons quand même laissé un petit fil d'argent nous relier au monde réel par la voie des... du sommeil, nous rejoignons aussi un monde avec beaucoup moins de limites que le nôtre, même si ce n'est pas forcément le monde de l'unité. Et puis, nous pouvons être reliés à notre esprit, que le cours miracle appelle notre esprit juste, contrairement à l'esprit divisé ou l'esprit faux, qui peut s'appeler aussi l'ego. Nous pouvons... être relié ou demander conseil comme je l'ai fait, ou demander à être guidé comme je l'ai fait en début de séance, pour décider ce qui a besoin d'être décidé, être guidé, faire confiance. Voilà. Donc, la seule façon d'être connecté à l'esprit juste, à l'esprit divin en nous, c'est de lui faire confiance. Hein. C'est une confiance totale, une confiance absolue qui ne demande pas de preuves, qui simplement croit sans preuve apparente. Hein. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire. Hein. Ou si je suis motivé pour faire quelque chose, alors j'y vais, je fonce. Si je sens que j'ai une mission sur Terre, je fais ce que j'ai à faire et je ne laisse pas la partie de peur, la partie divisée, prendre de l'ampleur. Hein. Je suis avec confiance la partie lumineuse que je reconnais en moi. Voilà, ça peut être tout à fait progressif. Je tiens à dire que ces réunions démarrent dans un esprit de « tiens, voilà des personnes nouvelles, tiens, voilà des personnes qui ne sont pas moi ». Et puis très souvent, nous terminons avec « nous sommes en famille ici ». Pourquoi ? Parce que dans cette réunion où il n'y a pas de jugement, dans cette réunion où l'accueil est total, alors l'esprit peut participer à la réunion, l'esprit pur, l'esprit saint. Le Saint-Esprit, c'est la terminologie du cours en miracle, mais ça correspond à la partie supérieure de mon être. Il peut participer et puis nous insuffler un sentiment d'unité bien plus fort que lorsque nous avons ce sentiment que la personne qui est en face de moi, ce n'est pas moi. Et bien sûr, dans l'esprit divisé, ça arrive incessamment. Voilà. Alors, toutes les blessures que nous pouvons vivre dans notre vie sont intimement reliées à l'état de « je me crois vulnérable ». Et si je peux mourir, c'est aussi parce que je peux être blessé. Si je ne pouvais pas être blessé, d'une certaine manière, c'est je crois en mon invulnérabilité et donc en ma vie éternelle. Donc, c'est important de pouvoir partager aussi à propos de le sentiment d'être blessé, hein, le sentiment, la capacité que j'ai d'être blessé et la capacité d'aller au-delà du sentiment d'être blessé. La capacité de sentir que il y a quelque chose d'éternel au-delà de ce qui est éphémère, hein, de ce qui un jour cessera d'exister. Donc, bienvenue à vos expériences, à vos ressentis concernant j'ai peur de disparaître un jour, j'ai peur de plus exister, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort, j'ai peur de la blessure. Ou alors, je crois profondément, au-delà de toutes ces peurs, à quelque chose d'immuable, d'inchangeable, d'invulnérable, que je représente ici sur Terre en incarnation. Voilà. Continue qui le souhaite.
En ce qui me concerne, ce qui est présent en moi là maintenant, c'est pas tant la peur de mourir que la peur de ne pas être suffisamment vivante. Voilà. Ouais. C'est-à-dire de ne pas être suffisamment dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent. C'est pour ça que quand je vois Raymond, je suis ravie parce que je ressens en toi que tu incarnes quelque chose qui m'est cher, qui relève, tu vois, de la vie. C'est vraiment fantastique. Voilà ce que j'avais envie de partager.
Alors, je voudrais partager que dans ce monde de dualité, c'est pas possible d'amener l'unité ici. Hein. C'est pas possible non plus d'amener la dualité dans l'unité. Mais comme nous avons inventé le temps, nous avons aussi apparemment une progressivité comme un chemin de retour progressif, même si dans l'absolu, c'est soit l'un, soit l'autre. Nous avons inventé un chemin de retour à la maison qui inclut plus ou moins d'ego. Et notre expérience terrestre, ça peut être la perception que l'ego se dissout petit à petit. Même si dans l'absolu, c'est soit il y en a, soit il n'y en a pas. C'est assez étrange parce que c'est paradoxal même que dans notre monde, il y a de la progressivité et dans le monde réel, il n'y en a aucune. On peut dire aussi que dans le monde de l'unité, il n'y a aucun choix. Parce qu'il n'y a pas entre quoi et quoi choisir. Il n'y a que l'amour. Donc, que choisir quand il n'y a que l'amour? Eh bien, l'amour, forcément. Donc, pas assez vivant, ça veut dire que, pour moi, il y a une part de peur, il y a une part d'ego, il y a une part de croyance en la séparation qui est encore prégnante, qui imprègne encore ma vie et qui est appelé au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des témoignages tels que ceux de Raymond, qui nous parle bien pour la plupart comme quelque chose de lumineux, alors nous progressons, nous cheminons progressivement vers de moins en moins de croyance en la séparation et de plus en plus d'identification à l'unité. Voilà. Nous ne pouvons pas avoir un corps et ne pas croire en la séparation. Si nous arrêtions en 7 secondes d'entretenir la croyance en la séparation, nous quitterions immédiatement le corps. C'est étrange, hein, ce que je dis. En vérité, à chaque seconde, la croyance en la séparation est perpétuée par le fait que le corps est encore là. C'est fort, hein, la croyance en la séparation est forte, et c'est pour ça que le cours en miracle, entre guillemets, prend des gants. Hein, Jésus, sous la forme de la canalisation que Helen Schuckman a retranscrite dans un cours en miracle, se place comme celui qui nous prend par la main pour passer outre les peurs de quitter le monde de l'illusion, parce que l'ego a cette croyance que la peur existe, que autre chose que l'amour existe, est très puissante, et la lâcher d'un seul coup pourrait nous faire sombrer dans la folie. Hein, et qu'il y a besoin, apparemment, semble-t-il, d'un chemin progressif pour passer d'un monde à l'autre. Et si on prend l'ascenseur et qu'on monte directement dans la perception de l'unité, nous n'avons jamais quitté l'unité. Hein. C'est un voyage illusoire qu'on a fait. Nous sommes Dieu, dans l'unité, et ce monde-là s'apparente à un rêve. Nous avons rêvé. Hein. Nous sommes au chaud à la maison et nous rêvons d'exil. Hein. C'est une phrase d'un cours en miracle. Donc il y a une partie de nous qui rêve que nous sommes ici dans des corps, qui croit que tout est séparé. Et il y a une autre partie qui est tranquillement au foyer, à la maison, dans l'unité de Dieu. Voilà, c'est pas facile pour certains d'admettre que ce monde-là est un rêve. Hein. Mais bon, dans la tradition indienne, il y a le samsara, hein, le monde de l'illusion, et dans bien d'autres traditions également. Voilà, je vais juste, avant de terminer, citer une expérience de physique quantique pour ceux qui ont l'esprit un peu scientifique. Il y a certains physiciens qui ont, quantiques qui ont été devant l'évidence que toute notre perception de la réalité est issue d'un flux nerveux qui part de nos cinq sens, qui arrive à notre cerveau, et qui sont interprétés par une sorte de logiciel qui dit « ça c'est sucré » ou « ça c'est lumineux » ou « ça c'est amer » ou « ça c'est doux, touché », etc. Mais on voit bien que c'est une sorte de boîte noire dans laquelle il y a des signaux qui entrent. Il y a une sorte de processus inconnu de nous qui est une sorte de dictionnaire, enfin de traducteur. Et au final, on a une perception de notre monde. Hein. Donc, ces physiciens, ils ont dit, que se passerait-il si nous extrayons le cerveau du corps, nous le mettions dans une cuve avec des éléments nourrissants pour qu'il reste en vie, avec de l'oxygène, avec tout ce qu'il faut. Et que nous puissions avoir un ordinateur suffisamment puissant, ceci est une hypothèse, hein, relié à toutes les terminaisons nerveuses des sens qui arrivent au cerveau et qui donne exactement les mêmes signaux que ce que nous percevons de la réalité. Eh bien, nous penserions que nous vivons le monde réel. Il n'y aurait aucune différence de perception si les signaux étaient exactement les mêmes. Et pourtant, notre cerveau est dans une cuve. Alors ça, c'est déjà assez parlant. Hein. La grosse inconnue, c'est le logiciel qui est entre mon oreille ou entre mon œil et la perception de l'image ou la perception du son. S'il y a un bug dans le logiciel ou si je change le logiciel, je vais percevoir autrement. Les dauphins, par exemple, perçoivent des choses qu'on ne perçoit pas, hein, les infrasons, ou, etc. Ou les éléphants perçoivent les infrasons aussi. Bon. Et le physicien termine avec cette phrase, mais absolument incroyable, et il dit, attention, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'actuellement notre cerveau n'est pas dans une cuve ? Et je relis ça à l'unité. Hein, notre moi, notre soi supérieur est dans l'unité. Le logiciel, c'est notre esprit très puissant qui dit, tu veux sentir que cette couleur est rouge ? Ok, vas-y, je te donne le logiciel. Tu veux sentir que cette matière est molle ? Ok, je te donne cette perception, ce logiciel. Et notre esprit est le logiciel qui, très puissant, nous donne tous les aspects de la réalité. Donc, ça, voilà, ça part de la physique quantique, ça rejoint le monde de la réalité.
Bonjour mes amis d'ici, de Romainville, et bonjour mes amis auditeurs. Alors moi, à propos de la peur de mourir, je crois que j'ai été pétrie de peur pendant les 49 premières années de ma vie. J'avais peur de mourir, j'avais peur de vivre. J'avais peur de me rencontrer, je crois. Je crois que ma plus grande peur, c'était celle-ci. Peur de me connaître, peur de me découvrir, peur de ce que j'allais trouver, en fait, au fond. J'avais peur de réussir, j'avais peur d'échouer, j'avais peur d'aimer, j'avais peur d'être aimé, j'avais peur de ne pas être aimé, j'avais peur. Et puis, j'ai frôlé la mort. Et quand j'ai apprivoisé l'idée de la mort physique, quand je me suis abandonnée, quand j'ai confié ma vie, ma mort à Dieu, que je lui ai dit, si c'est ta volonté, qu'il en soit ainsi, à partir du moment où j'ai accepté de mourir, j'ai l'impression que la peur de vivre m'a été ôtée, en fait. Et j'ai pu commencer à vivre et à découvrir la joie de vivre. Alors aujourd'hui, la mort physique, pour moi, n'a plus vraiment grande importance. Il est vrai que aujourd'hui, je n'ai plus de volonté déchaînée, c'est-à-dire que je sais que j'ai le choix d'instant en instant de projeter la peur ou de répandre l'amour. Et aujourd'hui, il fait très 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 beau et j'avais pas du tout envie de venir ici a priori, j'avais plutôt envie d'aller dans le bois de Vincennes au soleil. Et puis, je me suis dit, allez, vas-y, une petite révision, ça fait pas de mal. Et je dis ça parce qu'en fait, je suis un être humain. Et ça paraît tellement simple quand je lis le cours en miracle ou quand j'écoute ce que dit Avi. Mais c'est bien sûr que c'est simple, d'une simplicité. Alors, je peux vraiment pas dire que 24 sur 24... je sois dans l'amour inconditionnel. Donc la peur revient régulièrement, mais ça dure de moins en moins longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, J'aime bien dans la page 30, là, les cinq phrases que tu cites à vie. La dernière qui dit « Enseigne-moi à guérir, ainsi je guérirai ». Et c'est ça que je vis, je crois, dans mon quotidien. J'essaie d'instant en instant de répandre l'amour. Et quand je vois que je ne suis pas dans l'amour, c'est cette présence, en fait, cette présence consciente qui me rappelle que je suis l'enfant de Dieu et que je m'écarte du chemin dans cet instant-là. Et le fait d'être présente et de le voir me ramène très rapidement à la maison, dans ce grand tout, dans cet amour. Mais c'est important de ne pas refermer pour moi le livre, et c'est important d'entendre ces témoignages. Ça donne une impulsion, ça donne du sens, un fil, ça me rappelle que je peux m'écarter du chemin. Ceci étant, je me l'autorise et j'accepte cette idée-là de m'écarter, de m'éloigner et de revenir. Avant, j'étais beaucoup, beaucoup dans la culpabilité. Aujourd'hui, je crois que je fais l'expérience de cesser de vouloir être parfaite. Je sais que je le suis, au fond, parfaite. Cette peur que j'avais de me rencontrer a nécessité beaucoup de courage, parce que quand je me suis assise à l'intérieur de moi et que j'ai découvert un champ de ruines, j'ai vu que c'était là la perfection, en fait, et que derrière ces ruines, il y avait un être magnifique, celui que nous sommes tous. Nous sommes tous magnifiques, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et j'avais très, très peur d'avoir peur, en fait. Et le fait d'aller voir la vérité, d'aller voir qui j'étais réellement, a permis, derrière toutes ces peurs, d'aller voir la lumière et de voir enfin la vérité. Et aujourd'hui, quand quelque chose me rencontre et que ça me dérange, je me dis « Ah, chouette, une opportunité de transformer, une opportunité d'aller polir le diamant. » Et voilà, Simon Leclerc dit aussi, quelque part, il dit « Qu'allez-vous faire de cette partie de vous qui ne sait pas encore comment faire autrement ?» Avant, j'avais envie de la jeter, cette partie de moi qui ne savait pas aimer. Et aujourd'hui, je l'accueille, je l'embrasse et je la remercie d'être là. Et à chaque fois, c'est un cadeau, parce qu'à chaque fois, je peux guérir ce qu'il y a à guérir, et à chaque fois, je grandis. Donc aujourd'hui, oui, j'ai bien sûr encore des peurs, mais je crois que j'ai fait l'expérience du divin en moi, et je n'ai plus peur d'avoir peur. Et quand j'ai peur, plutôt que de fuir dans les compensations de surface, dans les dérobades enfantines, ça c'est une expression de Marianne Williamson que j'adore, eh bien je m'arrête, plutôt que de courir dans tous les sens, de m'agiter comme le voudrait l'ego, je me pose, je m'assieds, je m'arrête, j'écoute, j'observe, et ça se dissout, en fait. Et je me rends compte que plus je suis dérangée, plus c'est l'occasion de me ranger autrement. Grâce à Dieu. Voilà. Et ça devient un petit jeu que maintenant j'affectionne particulièrement. Et puis je me dis que rien n'est si grave et que rien n'est si important, que nous ne sommes pas si importants et que Dieu est tout ce qui est et que Dieu est là. Et aujourd'hui, je me sens vraiment guidée, choyée, entourée, portée, aimée, et c'est cadeau. Voilà, je suis venue aussi ici aujourd'hui pour dire ma gratitude. J'adore le livre de 1300 pages. J'adore ces deux personnes qui avaient une relation exécrable grâce auxquelles ce livre a pu voir le jour. Et puis ces réunions enregistrées, je trouve que c'est un cadeau magnifique qui m'a permis, quand je ne pouvais pas me déplacer, d'être reliée aussi et d'avoir cette connexion au grand tout. Donc merci infiniment, Avi, de nous recevoir aussi chez toi. Et merci à vous tous qui êtes là, ici et à l'autre bout du fil. Voilà, je vous souhaite un très très joyeux dimanche pascal.
Alors, je peux parler du fait que la peur de la mort est intimement liée à l'identification au corps. Plus je suis identifié au corps, plus je sens que c'est moi qui vais disparaître. Et moins je suis identifié au corps, et moins cette peur peut avoir de prise sur moi. Donc, mon chemin ici sur Terre, c'est... d'arriver à prendre conscience de ma vastitude au-delà du corps. C'est cela qui fera que, quand la mort arrivera, elle sera peut-être accueillie pour ce qu'elle est, comme un passage vers d'autres expériences, vers d'autres niveaux de réalité. Certains disent, c'est quand vous êtes mort que vous êtes vraiment vivant. Que vous êtes les plus vivants. Parce qu'il y a toute une série de limites qui s'enlèvent lorsque nous quittons ce corps de matière. Alors, Jésus disait aussi, en toute situation qui demande une réaction qui est émotionnelle, comme possibilité, il n'y a que l'amour ou la peur. Les situations émotionnelles ne sont que des situations basées sur l'amour ou basées sur la peur. Parce qu'en vérité, dans notre monde de dualité, toutes les émotions peuvent se classer en émotions de peur, généralement, et en émotions d'amour, généralement également. Si je suis bienveillant, c'est l'amour. Si je suis patient, c'est l'amour. Si je suis affectueux, etc. Si je suis cruel, c'est la peur. Si je suis impatient, c'est la peur. Si je suis pressé, c'est la peur. Voilà. Angoissé, stressé. Donc, moi, ça m'aide de classifier que, en fait... tout ce que je rencontre en face de moi en termes de situation émotionnelle, c'est soit des situations d'amour, soit de peur. Alors comment je peux y répondre? Et Jésus nous donne cet indice qui est extraordinaire. Il dit, en face de l'amour, naturellement, on est tous portés à réagir avec amour. Parce que l'amour appelle l'amour, c'est sans fin. Hein. c'est naturel pour nous d'aimer. Et donc, nous nous rappelons d'aimer lorsque nous voyons quelqu'un qui aime en face de nous. Mais lorsqu'il y a une situation de peur en face de nous, alors Jésus nous dit que la peur, en fait, est un appel à l'amour. C'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment ouvert sa capacité à aimer et qui exprime sa capacité à aimer maladroitement par une agression ou par une expression de peur, hein, ou d'une qualité quelconque dérivée de la peur. Et donc, la personne qui m'agresse ou qui me juge, en vérité, si je prends le temps de me poser la question d'où est-ce que ça vient, et ça mérite de faire une petite pause, hein, alors je pourrais dire qu'en vérité, elle me dit « aime-moi ». Cette personne me dit maladroitement « aime-moi ». C'est parce qu'elle ne peut pas accepter de dire « aime-moi » que ça se traduit par « je t'agresse, je t'insulte, je suis impatient, stressé, angoissé ». C'est parce que je suis déconnecté de ma faculté à aimer que j'agresse. Et donc, lorsque je vais nourrir cette faculté à aimer, j'aurai plus besoin d'agresser. Est-ce que le Dalai Lama, est-ce que Jésus va répondre à une insulte par une insulte? Ça paraît trivial, évident. Le Dalai Lama va s'éclater d'un grand éclat de rire. Pourquoi? Parce que, pour lui, l'insulte n'est pas pertinente. Elle ne reflète pas ce qu'il est. Jésus non plus. Jésus tend l'autre joue. Hein? Pourquoi? Parce que il ne croit pas à la réalité de ce que l'insulte dit. L'insulte dit « tu es moins que rien ». Et l'être qui se connaît parfaitement dit « je suis d'une valeur infinie ». Et ce n'est pas l'insulte qui va changer quoi que ce soit. Et c'est à l'endroit où l'amour de moi-même n'est pas suffisamment développé, connecté, que je n'ai pas cette estime de moi-même, que l'insulte va avoir son point d'entrée en moi. La brèche par laquelle l'insulte s'insinue, c'est « je ne m'aime pas moi-même » et donc « tu as bien raison de m'insulter ». Si je m'aime moi-même, l'insulte ricoche, parce que je verrai « mais qu'est-ce que c'est que cette blague que tu me dis là ?» Et on peut en venir à cet aspect de « je suis blessé seulement à l'endroit où je crois que je peux être blessé ou que ma valeur est toute petite, insignifiante ». Et donc, ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce que je crois à l'intérieur. C'est intéressant, parce que j'enlève comme ça tout pouvoir à l'autre. Que je me rappelle de qui je suis et plus jamais je pourrai être dépendant de l'opinion de quelqu'un. C'est pour ça que le seul retour à la maison, c'est un retour à l'intérieur dans ma propre estime, mon propre amour de moi-même, en disant « je suis un être valable au-delà de toute limite ». Et quoi que ce soit que l'autre pense de moi, ça reste une pensée qui lui appartient, qui est issu d'un état où il n'y a pas assez d'amour pour lui-même pour reconnaître cette vastitude-là. S'il y a assez d'amour, il va me dire « je t'aime ». Et pareil, hein, si moi j'ai assez d'amour, je vais entendre « aime-moi » plutôt que « espèce de » en face. Donc j'ai une sorte de dictionnaire, hein, moi. On me juge, voilà, à l'intérieur, ça peut dire « moi aussi je t'aime ». Parce que j'ai entendu « aime-moi hein, »,« aime-moi » ou « je t'aime ». Mais l'ego ne peut pas dire « je t'aime hein, ». L'ego ne sait pas dire ça. L'ego ne sait que dire « j'ai peur de vivre hein. ». J'ai peur de mourir, j'ai peur de vivre, sont intimement liés. Donc, lorsque je vais répondre par l'amour, je vais désactiver la partie égotique de l'autre qui croit qu'il n'a pas de valeur, qu'il est insignifiant, qu'il n'est pas enfant de Dieu, qu'il est périssable, qu'il va mourir un jour, qu'il peut être blessé. Je vais lui rappeler par miroir, puisque je suis son parfait miroir, qui il est. C'est seulement en lui envoyant de l'amour, bien sûr, que je vais lui rappeler qui il est. Alors, c'est pour ça que le cours en miracle nous dit « ton frère est ton sauveur ». Parce que, en fonction de comment je vais réagir à ce que dit mon frère, je vais être sauvé ou pas sauvé, ou je vais m'enfoncer davantage dans la séparation. Et il n'y a aucun mal, hein, il n'y a aucun mal à croire en la séparation. Je dirais, nous avons souhaité cette expérience de dualité qui inclut le bien et le mal, et donc nous expérimentons la partie qu'on appelle négative aussi longtemps que nous voulons, jusqu'à ce que nous en venions à la conclusion que le bonheur ne réside pas là-dedans. Ne réside pas dans croire en la séparation, en la maladie, en la mort, en l'aspect changeable, périssable, éphémère de nos vies. Et en fait, les réincarnations ou nos expériences sur Terre ont pour but de nous améliorer vie après vie ou expérience après expérience en tirant des conclusions de nos choix. La dualité est le théâtre de choix. Il n'y a aucun choix, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'unité. Dieu est, point. Hein, on ne peut rien rajouter derrière Dieu est. On ne peut pas dire Dieu choisit d'être amour, parce que Dieu est amour de toute éternité. Et il n'y a pas de changement dans l'éternité. Donc nous avons construit, fabriqué dans notre esprit, divisé un monde où est programmé de manière subtile le retour à la maison au travers d'expériences de contraste. Par le contraste, nous pouvons décider ceci m'aide, ceci ne m'aide pas, et choisir de nous améliorer. Et en vérité, si vous voyez la vie ou les vies, si on pouvait voir ça de quelqu'un, et il y a une très belle vidéo sur les Atlantes de l'ancienne Égypte qui parle de l'amélioration de l'humain de vie en vie et du rôle de la dualité qui pour moi a été très, très enseignante. Et de vie en vie, nous tirons les conclusions de nos choix et ainsi nous nous améliorons en laissant de côté ce qui ne nous fait pas grandir et en privilégiant ce qui nous fait grandir. Et qu'est-ce qui nous fait grandir? Les expériences d'amour. Et qu'est-ce qui nous fait nous rapetisser, nous contracter? Les expériences de peur, de tout ce qui relève de l'ego, hein, de la peur, du jugement. Donc, que je considère mon frère, ma sœur, en face de moi, sur Terre, comme un parfait reflet de mes croyances. Hein. Si il me dit « je t'aime » et moi je réponds « je t'aime », ben c'est deux miroirs qui se renvoient la même chose. Si il me dit « je te déteste » et moi je suis assez guéri à l'intérieur pour ne pas entendre ça, mais pour dire, pour entendre « j'ai tellement envie que tu m'aimes hein, » et donc je te dis « je te déteste » pour que tu vois à quel point je suis malheureux et à quel point je mérite ton amour. Il y a besoin d'une traduction à l'intérieur. Alors, quel est l'interprète qu'on va utiliser pour faire cette traduction? Si j'interprète avec l'ego, je vais amplifier la peur. Je vais rajouter un jugement sur le jugement. Je vais créer plus de séparation qu'il n'y en avait. Et si je choisis le Saint-Esprit, l'amour, la parole de Dieu, alors je vais dire exactement à ce frère ce qu'il a envie d'entendre. Imaginez quelqu'un qui me dit « je te déteste » et moi, soit je pense à l'intérieur, si ce n'est pas possible de le dire, soit je le dis, si c'est possible de le dire, je réponds « je t'aime », pensez-vous que ça va alimenter son agressivité ou la calmer? Ça va plutôt la calmer. Ça va plutôt dire à l'intérieur, ça va lui renvoyer une image de ce qu'il pourrait être s'il n'était pas sujet à cette croyance forte que je suis séparé de Dieu et donc pas digne d'amour. Donc la seule façon d'aider ce frère, c'est d'être un miroir, de lui renvoyer une image de ce qu'il est en vérité, mais qu'il ne perçoit pas. Et ça fait partie de son expérience, et en même temps, comme nous sommes tous parfaitement guidés en lieu et en heure pour vivre les meilleures expériences possibles pour notre évolution, alors ce « je te déteste » là est arrivé au parfait moment pour moi et pour lui, pour moi pour me rappeler que je ne cède pas à une petite idée folle qui dit « tu n'es pas enfant de Dieu ». C'est en gros ce que dit « je te déteste ». Je me rappelle qui je suis, quel que soit ce qu'on pense de moi. Et pour lui, qui est une occasion de me demander, de lui rappeler qui il est. En vérité, mon frère me demande tout le temps d'être un miroir de l'amour, hein, quel que soit ce qu'il dit, qu'il parle d'amour ou pas d'amour. Donc, lorsque nous avons compris ce mécanisme, alors nous pouvons regarder à quel point notre ego peut être titillé par ces invectives et puis décider de faire cette petite pause et de commencer à traduire ce qui vient avec le bon interprète. Si je ne fais pas de pause, alors c'est l'ego qui s'empare du micro et qui prend avec sa grosse voix ma défense. Hein. Et qui se défend à part celui qui se croit vulnérable? Qui se défend à part celui qui se croit attaqué? Hein. Et donc l'ego parle en premier. Et la première chose que moi j'ai apprise, c'est de relaxer cette propension à parler avec l'ego d'abord. Hein. Alors comment? Je fais silence. Je fais silence. Quoi qu'on me dise, quoi qu'on pense de moi, je réponds même pas je t'aime, je fais silence. Et dans ce silence-là, j'invite la guidance, j'invite la bonne traduction de ce qui vient d'être dit. Et à partir de cela, je peux exprimer la vérité plutôt que d'exprimer les illusions qui traversent mon esprit. Donc, nous n'avons jamais quitté la maison. Nous faisons un voyage illusoire, mais qui nous amènera forcément à la maison, quelle que soit l'apparente durée du voyage. Nous sommes condamnés à réussir. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, nous sommes toujours dans l'amour, en ce moment même. Hein. Nous rêvons d'autre chose. Et lorsque vous êtes un parent, hein, que vous avez un enfant de 3 ou 4 ans qui fait un cauchemar pendant la nuit, son cauchemar lui paraît très réel. Hein, et nous savons que nos rêves paraissent très réels jusqu'à ce que nous sortions du rêve. Et donc, la personne, la petite fille ou le petit garçon qui fait un cauchemar en plein milieu de la nuit, son père ou sa mère ne va pas la secouer en lui disant « Réveille-toi, tu rêves, tu vois bien que tu rêves. » Non, il va la rassurer, il va la prendre dans ses bras, il va dire « Ce n'est rien, tout ça, ce n'est qu'un rêve. Hein. » Et c'est comme ça que nous sortons du rêve, en étant pris par la main, en étant rassurés, en rassurant la partie de nous qui croit tellement fermement à l'illusion, qui croit que la mort est possible, hein, qui croit que notre vie est limitée, alors que notre vie n'a pas de début, n'a pas de fin, et que nous rêvons de tout ça. Et nous nous apprêtons à progressivement nous réveiller de cette illusion-là. Exactement comme la petite fille se réveille du cauchemar nocturne. Quelqu'un disait, nous savons ce que c'est que le rêve parce que nous nous réveillons le matin. Hein. Mais qui nous dit que cette vie-là n'est pas un rêve duquel nous ne sommes pas encore réveillés? Nous continuons à rêver, mais c'est continuel, hein, c'est jour après jour, dans notre illusion de vie. Donc nous avons un ego, nous avons une partie qui croit fermement à l'absence de Dieu, on pourrait dire, hein, pas d'amour, ça veut dire que Dieu n'existe pas, cette partie-là a besoin d'être rassurée et non combattue. C'est ce que j'exprimais quand je dis, on ne va pas secouer l'enfant qui se réveille en lui disant, réveille-toi, réveille-toi, ce n'est qu'un rêve. Hein. Elle a besoin d'être rassurée, mais pas combattue, et pas avec violence, mais avec douceur. L'ego est comme un petit enfant effrayé qui a besoin d'être rassuré. L'ego ne croit pas à l'amour et c'est donc par l'amour que l'ego peut revenir à la maison, hein, peut revenir à une partie véritable. L'ego croit en des choses insensées et il y a une partie de nous qui se rappelle de la vérité dont le but est de dire « Je suis le parent de cet ego, hein, je le reparente, il est comme un enfant perdu dans la forêt qui hurle de peur. Pourquoi » Pourquoi ? Parce qu'il s'est égaré, il a perdu sa voix. Et nous, nous sommes le parent qui dit « Viens par ici mon chéri, on rentre à la maison. » Et l'ego n'étant qu'une absence d'amour, se dissout tout simplement lorsque nous mettons de l'amour à cet endroit où il y a de la peur. J'utilise cette phrase souvent. Qu'est-ce que l'obscurité ? L'obscurité n'a pas d'existence réelle. L'obscurité est une absence de lumière. Et l'absence, et c'est donc, quand on dit absence, c'est que la lumière existe, mais ce n'est pas l'obscurité qui existe, c'est une absence de. Hein, et l'ego est une absence d'amour. C'est-à-dire un endroit que j'ai protégé de l'amour intentionnellement, avec des digues, des barrières, de manière à créer mon illusion, parce que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu entrer dans ce rêve-là. Il fallait que j'aie une zone où l'amour, une bulle hein, dans l'univers, où l'amour ne parvient pas à entrer, une zone obscure. Tout ça, bien sûr, c'est rêvé, hein, mais c'est ce que nous expérimentons. Un endroit où il y a une terreur absolue, où nous semblons complètement seuls et où l'amour ne peut pas s'infiltrer. Et c'est en allumant la lumière hein, dans la cave que cette obscurité, finalement, ben on voit son absence totale de matière. C'est juste, il n'y avait pas d'amour à cet endroit-là. Voilà.
Je prends enfin ce bâton de parole. Donc, c'est Nera. C'est la première fois que je viens en cours de miracle, malgré que je reçois toute l'information de chez Avi. Donc là, ça m'a parlé quand j'ai vu le thème de la mort, et surtout à cette époque si significative. Parce que pour moi, j'associe les mots de la mort justement à une résurrection, et notamment parce que je vois que beaucoup de choses dans ma vie, je suis en train de mourir à beaucoup de choses donc, qui étaient très ancrées à moi, que je ne voyais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on m'a dit de ne pas voir avec mes yeux physiques, mais avec mon âme. Et par toutes ces explications donc, qui donnent la vie, par tous ces témoignages de Raymond, de Dani, donc tout ça, c'est vrai, ça m'amène à réfléchir à ma vie, à ma peur de la mort. Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé vraiment si j'avais peur de la mort, mais comme dirait mon fils Kevin, il dit, tu sais, je n'ai pas peur de la mort, j'ai surtout peur de la manière dont je vais mourir, mais bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas parler vraiment de mort, puisque puisque je vois la vie, surtout la vie en ce moment, la création, les choses nouvelles qui vont arriver bientôt. Là, Abby, tout à l'heure, il parlait des frères, tout ça, et là, tout ça m'a ramené vraiment dans le Mexique, mes petits problèmes avec mes frères, mais les histoires des espèces d'eux et que je n'ai pas su décoder, qu'il voulait vraiment dire je t'aime alors que j'ai pas pu décoder. Alors je me dis merde, je me suis enfoncé encore dans mes histoires. Donc tout ça, ça me parle, quoi. Mais bon, là, si je suis là, c'est vrai que là, j'ai tourné 1h30 pour trouver la maison d'Avi. Là, je suis arrivée fatiguée. Alors je me dis, voilà, allez, ouvre les yeux vraiment, parce que t'as des yeux, mais tu n'as jamais rien vu, au fait. Et que c'est vrai, c'est là, c'est un peu comme si je me découvrais. Ou plutôt, c'est comme si vraiment là, j'ouvrais mes yeux, je voyais vraiment avec mes yeux de l'âme, avec mon esprit, vraiment ce que j'ai fait de ma vie, quoi. Je me suis enfoncée, surtout ces 3 dernières années où j'ai pu arranger tellement de choses. Je me suis enfoncée comme les guerrières qui partent en guerre, là, avec l'épée, deux épées, une dans chaque main, et aller trancher des têtes. Alors que déjà, il demandait que de l'amour, quoi. Et que moi aussi, je par-dessus les marchés, donc, c'est vrai que tout ça, c'est émouvant. Parce que pour moi, l'amour, c'est vraiment la vie, quoi. C'est surtout dans une très belle journée, comme aujourd'hui, j'ai choisi aujourd'hui pour vraiment. J'ai jamais pensé à la mort, j'ai toujours pensé à la vie, mais c'est un peu comme si aujourd'hui j'ai ressuscité à quelque chose de très beau. Très chose aussi que j'ai créé depuis longtemps. Mais bon, même si mes frères ne sont pas là, je vous prends à tous comme mes frères, comme témoins aujourd'hui de cette journée spéciale pour moi. Et de leur demander pardon. 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 Je ne me suis jamais beaucoup servi de ces mots. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvé. Et je leur demande pardon de pas avoir eu des yeux pour voir, de ne pas avoir eu des oreilles pour entendre toute cette détresse, tout cet amour qu'on demande tous et que j'aurais pu donner, mais je n'ai pas donné. Mais aujourd'hui, je ressuscite, aujourd'hui, j'ai choisi encore de vivre et donc la prochaine fois, ça va être la fête pour tous. Ben voilà. Ça a été difficile pour les autres. Ça a été difficile pour les pendres de la vie. Il ne nous a pas laissé. Il ne nous a pas caché les œufs, mais bon, moi, j'ai pondu mon œuf. Bon, c'est vrai, c'est. Moi, je me dis, si c'est ça la mort, eh bien, voilà, maintenant je suis prête. Je suis prête à la voir vraiment avec mes yeux physiques, puisque je l'ai déjà vue avec mon âme. Je suis prête à l'entendre. Et puis, ben voilà, que les bouleversements, que les changements m'arrivent, puisque j'attends que ça. J'attends que ça aujourd'hui. Ben, je vous remercie d'être le témoin de cette renaissance, de cette résurrection, puisqu'on est dans la journée. Et puis, Avi, il a si bien mentionné, cité le maître Jésus. Ben, Je vous remercie alors tous de m'avoir bien écouté. Merci.
Merci Nera. Tu nous fais un très 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 joli cadeau pour ce dimanche pascal. Moi je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette mort à l'ancien et bienvenue dans cette résurrection au neuf. Pour moi, mourir, c'est mourir à chaque seconde, à chaque respiration, à chaque inspire, à chaque expire. C'est avoir un regard neuf d'instant en instant, c'est accueillir le nouveau avec un regard neuf. Comme c'est décalé que de réagir avec l'ancien sur du neuf, c'est ça en fait, mourir, c'est mourir à ce qui était et ne pas naître à ce qui sera, c'est être là, dans cet instant-là. Puis alors rassure-toi, parce que moi il y a quelques années, j'étais vraiment quelqu'un d'infréquentable. Tous ceux qui m'ont rencontré le regrettent certainement profondément. Mais tu vois, ça s'arrange de jour en jour. Bon, on est les mêmes. Hein. Tu sais, dans tout ce que tu as raconté, je me reconnais, je me retrouve. Et tu es moi et je suis toi. Et voilà, ben, on va faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour ta joie, pour ta vérité, pour ton authenticité. Merci infiniment.
Alors, dans notre monde où il y a de la progressivité, ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est que la peur de mourir s'est atténuée. Elle est toujours présente, mais elle s'est atténuée avec la partie de moi qui a appris à aimer sans condition davantage. C'est comme si elle était directement liée à combien de pourcentage de peur j'exprime dans ma vie. Et lorsque je suis connecté dans certaines expériences à la vastitude de ce que je suis, de qui je suis, à ce moment-là, la croyance ou l'identification au corps et la croyance ou la peur de mourir s'atténue énormément. C'est en vérité quand il n'y a pas d'autres croyance que celle du corps, que la mort est extrêmement effrayante parce que il n'y a plus rien du tout. Hein. Si je crois que je suis le corps et rien d'autre, c'est que au moment de mourir, il n'y a plus rien du tout. Hein. Et donc moi, j'ai remarqué que dans mes expériences de vie, plus je pouvais accueillir l'autre, plus je pouvais pardonner. Et plus il y avait d'amour présent dans ma vie de tous les jours, et moins la peur de mourir était prégnante. Et voilà, elle est directement liée à combien d'ego je laisse transparaître. Et donc, je suis l'artisan par lequel la peur de mourir diminue ou disparaît. Je trouve ça magnifique, les maîtres tibétains qui décident du moment de leur mort, qui s'assoient en méditation et qui meurt dans une paix totale. Waouh, c'est presque un fantasme, ça. Voilà, mon temps est venu, et puis c'est un moment qui n'est pas du tout effrayant pour eux, qui ils sont parfaitement conscients de ce qui se passe à ce moment-là. Alors tout à l'heure, je voulais ouvrir le cours en miracle à une page bien précise, mais il s'est ouvert à une autre page. Alors comme je suis guidé parfaitement, c'est tout à fait parfait. Je vais vous lire un petit paragraphe qui s'appelle « L'alternative au rêve de peur ». Donc on est en plein dedans. Alors c'est pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est très dense la lecture d'un cours en miracle, donc je vais le lire doucement. Qu'est-ce qu'un sentiment de maladie si ce n'est un sentiment de limitation, d'une coupure de et d'une séparation d'avec? Un fossé qui est perçu entre toi et ton frère et ce qui est maintenant vu comme la santé. Ainsi le bien est vu comme étant à l'extérieur et le mal dedans. De sorte que la maladie sépare le soi d'avec le bien en gardant le mal dedans. Dieu est l'alternative au rêve de peur, qui a part en eux, ne peut jamais avoir part en lui, mais qui retire la part que son esprit y prend, prend part en lui. Il n'y a pas d'autre choix. À moins que tu ne le partages, rien ne peut exister. Tu existes parce que Dieu a partagé sa volonté avec toi, afin que sa création puisse créer. C'est de partager les rêves mauvais de haine et de malice, d'amertume et de mort, de péché et de souffrance, et de douleur et de perte qui les rend réels. Non partagés, ils sont perçus comme insignifiants. La peur en a disparu parce que tu ne leur as pas donné ton soutien. Où la peur a disparu, là doit venir l'amour, parce qu'il n'y a que ces alternatives. Où l'une apparaît, l'autre disparaît, et celle que tu partages devient la seule que tu as. Tu as celle que tu acceptes, parce que c'est la seule que tu souhaites avoir. Voilà, il y a un grand nombre de chapitres d'un cours en miracle, surtout vers le début du texte théorique, qui parle de l'ego, qui décrivent l'ego et qui sont extrêmement instructifs pour moi sur cette partie de notre esprit très conditionné à penser que l'amour n'existe pas, qu'il y a besoin de se protéger de l'autre, il y a besoin d'attaquer, il y a besoin de se défendre. Et comme dit ce passage, quand je soutiens cette partie, je la fais grandir, quand je la partage. Et quand je soutiens l'amour, quand je me centre sur l'amour, je fais aussi grandir parce que je partage aussi l'amour. Donc notre rôle ici sur Terre, c'est de soutenir et partager l'amour. Et de le faire à chaque fois que c'est possible. Et un des outils majeurs que ce cours en miracle expose, c'est le pardon véritable. Le pardon véritable, ce n'est pas le pardon du monde. Ce n'est pas « tu as péché, tu es en faute, et moi qui suis grand et pur, je daigne te pardonner parce que je suis supérieur à toi. » Ça, c'est le pardon du monde qui établit un niveau inférieur et supérieur, un niveau de valeur entre les deux. Pardon véritable, c'est ce que tu m'as dit ne s'est pas passé réellement. Et je me rappelle qui tu es. Et je me réjouis ensemble avec toi d'être fils de Dieu, inaltérable, puissant, invulnérable. Et nous pouvons rire ensemble de la bonne blague que tu m'as jouée en me disant, Avi, est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas plonger dans ce que je te dis? Ou est-ce que tu vas en rire comme d'une bonne blague? Le pardon véritable, c'est changer ma vision sur l'expérience qui m'est proposée dans le monde. Est-ce que je la vois avec mon esprit de peur ou est-ce que je la vois avec mon esprit d'amour? Et se rappeler que tout est un et que chaque chose est la manifestation d'un rappel que nous sommes un, c'est le pardon. C'est un exercice en esprit que nous sommes appelés à faire chaque fois que nous pensons être séparés, que nous pensons être blessés ou que nous avons peur. Nous nous rappelons de qui nous sommes et nous nous rappelons aussi de qui est l'autre, qui apparemment nous a fait mal, apparemment nous a blessés, apparemment nous a fait peur, etc. Je change ma vision. C'est simplement un processus intérieur qui ne s'adresse pas à l'autre, mais qui est j'ai mal perçu et maintenant je reviens à une perception juste. Je rétablis la vérité là où il y avait l'erreur. Et donc il y a des processus de pardon, entre autres dans le livre de Gary Renard, qui a écrit « Et l'univers disparaîtra ». Et il mentionne plusieurs processus que lui a mis en place et qu'il aide dans toute situation à se rappeler de la vérité plutôt qu'à plonger dans l'illusion. Gary Renard, une fois, il était ici, dans ce lieu, on a dîné ensemble. Et à un autre moment, il a dit, avant dans ma vie, quand je devais pardonner, ça me prenait 30 ans. Aujourd'hui, 30 secondes. Donc, le pardon, c'est un entraînement. C'est vraiment entraîner l'esprit à penser juste. C'est littéralement situation dérangeante après situation dérangeante, remettre la lumière dans la situation là où j'ai vu l'ombre. Retrouver la vérité de l'amour qui est bien dissimulé dans cette situation. Ne pas m'en tenir à la première perception qui peut être celle de la peur et aller chercher plus profondément dans mon esprit une vision juste de ça. L'autre me tend toujours une perche pour me dire « rappelle-toi qui tu es ». Lorsqu'il m'insulte, il me dit « rappelle-toi que tu es amour ». Et si je ne me rappelle pas, alors j'aurai une autre occasion plus tard de le faire. Et quand je suis malade, c'est « rappelle-toi qui tu es ». Et quand ma maladie s'aggrave, c'est « et maintenant, est-ce que tu veux te rappeler qui tu es ?» Et quand je suis au bord de la mort, c'est « c'est maintenant ou jamais ». Vas-tu maintenant te rappeler que tu es pur amour et ne pas laisser le mal à l'intérieur et le bien à l'extérieur, comme dit ce chapitre. Donc, c'est une gymnastique entre esprit faux et esprit juste et en choisissant avec qui j'interprète la situation, à qui je passe le micro. Voilà, Saint-Esprit, vecteur d'amour, dis-moi, donne-moi ton interprétation de cette situation. Moi, je ne sais pas, je peux dire avec humilité, moi, je peux me tromper, moi, je peux partir dans des interprétations fausses. Et donc, toi qui sais, toi qui m'accompagne, toi en qui j'ai confiance, je te tends le micro. En faisant silence, je peux entendre la voix juste, parce que j'ai fait preuve de cette humilité qui dit « je ne sais pas d'office ». Mon esprit est divisé, donc je peux tendance à interpréter à tort une situation. Et dans le silence, la guidance, assurément, si je l'appelle, elle viendra, parce que nous sommes dans un monde de libre arbitre. Et si je ne demande pas, je ne reçois pas. Donc c'est important de demander. Demander l'aide du Saint-Esprit pour voir correctement ce que j'ai mal interprété. C'est toujours une situation bien ou mal interprété. Si je l'interprète bien, je suis dans le bonheur. Si je l'interprète mal, je vais dans la souffrance. C'est aussi simple que ça, c'est amour ou peur. Et à chaque seconde, je choisis mon état d'être avec cette décision. Et la décision vient de l'esprit, donc je peux m'en remettre à lui.
Là, je voudrais saluer et remercier tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Ça résonne profondément en moi et ça m'apporte de la clarté. Et quand je pense à la peur, il me vient le mot de lâcher prise. Et j'ai l'impression que quand on a peur, on s'agrippe. Et justement, on ne sait pas forcément lâcher prise. Et là, comme ça, je vois des enfants. Des enfants qui n'ont pas peur tant qu'on ne les a pas pollués mentalement par nos maladresses. Je me dis qu'on a beaucoup à apprendre de l'état d'esprit des enfants. Parce que justement, il nous enseigne la non-peur, quoi. Et le lâcher-prise, enfin, ils ne savent pas ce que c'est que la peur, finalement. En tout cas, un bébé, il ne sait pas ce qu'est la peur. Et je me dis que nous, adultes, finalement, dans nos chemins de vie, on est là pour nous transformer, chacun. Et un adulte ne serait-il pas un enfant sans peur, donc, dans la confiance, et ce qui a simplement de la connaissance que l'enfant n'a pas. Voilà, c'est tout un programme. Et quelque part, je me dis que nous, parents, on doit malheureusement enseigner la peur à nos enfants, consciemment ou pas. Et pour ce qui me concerne, je pense avoir pris conscience de maladresse que je peux encore avoir en tant que maman. Et en même temps, je suis contente du chemin parcouru par rapport à la relation de parent-enfant. Même s'il y a toujours du travail à faire. Je veux dire, c'est toute une vie. Voilà, donc j'ai envie de célébrer tout ce qui s'est dit et ce qui va encore se dire, certainement. Voilà.
J'avais envie de partager quelques mots. J'ai été très, très attentive, enfin le plus possible. Jusqu'à maintenant, il y avait plein de mots qui me venaient, mais dans un grand désordre. Je ne savais pas tellement par quel bout les prendre. Et je me nourrissais en même temps de tout ce qui était dit et dont j'avais fort besoin. Je suis venue parce que j'étais déjà venue une fois, que j'avais vraiment aimé être nourrie de la sorte, je pourrais dire. Et peu m'importait le thème d'aujourd'hui, qui est le thème de la peur de mourir, ça aurait pu être n'importe lequel. Ils se rejoignent tous, en fait, dans l'annonce du... Enfin, dans ce qui est du domaine de la non-dualité. Et bon, il y a des... Voilà, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Avi tout à l'heure, quand il a dit que le pardon, c'était un vrai entraînement de l'esprit. Et je constate à quel point ça, c'est juste dans ma vie de tous les jours, et particulièrement depuis le début de cette année. Je trouve que c'est vraiment une année de changement, il y a toujours du changement, évidemment, dans ma vie, et aussi bien dans la mienne que dans la vie de ceux que je côtoie, que je vois. Mais je trouve qu'il y a plus de densité. Alors, je ne sais pas si c'est une perception qui m'est propre. Et donc, à la fois, ça veut dire que moi-même, je me sens bousculée dans mes... Et un peu écartelée, parce qu'il y a la voix de mon mental qui est très forte, et en même temps je sais que c'est la voix de mon mental. Il y a une autre partie de moi qui est consciente que c'est la voix de mon mental, mais elle est encore tellement parfois puissante. Et la meilleure chose que finalement j'ai trouvé à faire ces derniers temps, c'est, et ça tu l'as dit aussi Avi, c'est de me mettre en position d'observatrice, quoi, de celle qui fait silence et qui écoute. Et finalement, il y a que ça qui arrive à me calmer. Et je me rends compte aussi que mon mental, il est très agité quand il est à la recherche... peut-être c'est le propre du mental aussi. Il est à la recherche d'un résultat quelconque. Aussi bien dans ma vie professionnelle, il y a beaucoup de changements en ce moment, que dans ma vie personnelle. Et chaque fois, je me dis, voilà... Enfin, chaque fois que je me rends compte, en fait, que une partie de moi, on va dire c'est le mental ou l'ego, qui est à la recherche d'un résultat, mais quelle souffrance ça génère. Et donc, arriver à cette prise de conscience ces derniers jours, je me dis, mais il n'y a que, encore une fois, le lâcher prise qui va me permettre de me détendre et enfin de goûter à la vie, parce que sinon, c'est de la torture, hein, vraiment. Et voilà. Et donc, c'est pas la vie, quoi. Voilà. Donc, voilà. Merci.
C'est Guy. Je voudrais témoigner plutôt le niveau de l'accueil. L'accueil, j'ai vécu une expérience, c'est que avant de découvrir le livre du cours en miracle, j'étais un garçon qui accueillait les autres avec plaisir, avec joie, qui prenait beaucoup de temps à l'écoute et qui faisait beaucoup attention à ce que l'autre disait. Lorsque quelqu'un me parle, je restais sur mes réserves et j'écoutais attentivement, avec respect. Mais je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'agression. Alors, je me sentais blessé, agressé, et je répondais aussi tac ou tac. Et depuis que j'ai découvert le cours en miracle, ça m'a amené à réfléchir sur le côté égo. Alors je me suis rendu compte que je m'étais trompé parce que j'avais beaucoup étudié de la psychologie. Et je me suis dit, attention mon gars, tu vas droit au mur avec ta psychologie parce que t'es pas une bonne chose. Tu as adopté la famille d'ego, tu es intégré en toi et tu es très fort dans le tapu-tac. Tu réponds juste alors que ta justesse est de l'ego. Je m'étais rendu compte que j'étais dans un dérapage loin de ce que je pouvais imaginer et qu'on appelait lumière et amour. Alors que pour moi, je voyais, je percevais ça comme lumière et amour, je me sentais protégé. Et je m'appréciais beaucoup. Et je m'étais rendu compte que je faisais une grosse erreur. Et comment trouver? Bon, je m'inquiétais beaucoup. Et j'appréhendais, je réfléchissais comment faire pour mieux me sentir à l'aise, comme dit le cours admirable. Quiconque vient devant toi, c'est ton frère, accueille-le avec joie. D'accord, mais c'est ce que je l'ai fait. Mais pourquoi je me sens agressé? Donc, à force de lire, c'est vrai que ça commençait à me prendre la tête parce que j'étais pressé. La patiente, à l'époque, je ne connaissais pas. Et un jour, comme ça, je me suis dit, bon, regarde-toi, comme le Saint-Esprit dit, c'est ton intérieur. Regarde ton intérieur. Essaye de comprendre pourquoi, toi, tu penses que tu te sens blessé. Alors, c'était encore difficile pour moi parce que j'étais encore de l'impatience. Je ne pouvais pas patienter. Et un jour, je me suis dit, bon, Saint-Esprit, j'en ai marre de réfléchir. Et je n'ai pas envie de m'énerver parce que je commets une erreur dans l'énervement aussi. Je veux la paix. Guide-moi, dirige-moi dans mon intérieur, à l'extérieur, afin que je puisse trouver la paix et recevoir l'autre avec amour, comme toi tu le dis, mais je ne vois pas bien comment tu appelles amour. Mais moi, quand je vois l'autre, j'ai l'amour, j'ai le plaisir, mais ça ne colle pas. Alors aide-moi, montre-moi. Bon. Et un jour, bien entendu, je remercie le Saint-Esprit, je dis dans l'équipe, un jour, j'ouvre l'ordinateur et je m'amuse à chercher ma page de chapitre et je tombe, comme par hasard, sur une phrase que j'entends. Tu fais des erreurs en pensant. À la façon dont l'autre va te répondre, tu te blesses, tu te sentiras blessé. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai. Si moi je pense d'emblée le premier, avant de voir l'autre, l'autre arrive et je le vois venir. Et je commence à penser, attention, je crains qu'il me blesse. Il faut que je reste sur mes gardes, que je réponde investissement par rapport à ce qu'il dit. Déjà, je commets une erreur avant qu'il ne le parle. Ça, ça m'a fait du grand bien. Et j'étais heureux, j'étais content. Et du coup, j'ai eu la première personne, après avoir lu la lecture, venir en face de moi. Avant de me dire bonjour, je me suis concentré, je me suis dit, ah, comme les belles, la personne qui arrive, elle va te parler, sois heureux, accueille. Ouvre ton cœur et tes bras et laisse tomber tes questions. Effectivement, la personne arrive en face de moi. C'est vrai que mon cœur commençait à battre. Je n'étais pas du tout prêt, mais c'était l'apprentissage. Vas-y mon gars, ouvre ta porte au fond de toi et reste-toi avec un homme. N'y pense plus. Laisse-la parler. Alors j'entends, bonjour Guy, ça va? Oui. blessuré, tu vois. Ah ben, je vous dis pas que j'étais content d'apprendre qu'on me dise un mot assuré, tu vois. Alors que d'habitude, c'est pas cette phrase, mais me sort. Hein. Et moi aussi, je réponds. C'est vrai? T'attends bien. Puisque tu es heureux de me voir, laisse-moi te dire que j'ai la grande joie de m'exprimer. Combien je suis content de t'entendre me dire que tu es heureux de me voir. Peux-tu me dire pourquoi tu es heureux de me voir? Non, je te sens bien. Ce n'est pas sur tes gardes. Et dans ma tête, je me suis dit, Dieu merci, je comprends. C'est pour vous dire que j'ai découvert. Quand le cours à miracle dit, l'autre t'apporte la vérité, quelles que soient les choses que tu peux interpréter, je m'étais rendu compte que c'était vrai. Et je me suis dit, donc, mon comportement d'avant et mon raisonnement d'avant, j'étais à fond dans l'ego. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? C'est tout simplement de mettre l'ego derrière moi, de regarder devant moi l'amour, la joie et la paix. Parce qu'avant, ma seule paix, c'était quoi? C'était de me défendre, de me protéger contre tout ce que j'allais entendre. Alors que, au fond, je n'étais pas en paix. Et depuis que j'ai découvert cette phrase, je me rends compte que c'est mieux de vivre sans avoir des arrière-pensées, mais plutôt de se laisser guider par l'amour de l'autre. C'est vrai que pour attraper l'amour de l'autre, à l'époque, ce n'était pas facile parce qu'il y avait la méfiance, etc., par rapport à son visage, son comportement, ses expressions. Pour moi, je lisais, ça comptait. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça n'a aucune importance, ce sont des illusions. C'est moi qui m'ai créé, c'est moi qui m'ai façonné, alors que l'autre ne m'a rien fait. Il est comme ça, j'ai dû l'accepter. Tout ce qu'il me dira, quelles que soient les choses, c'est d'accepter, recevoir, aimer l'autre, me parler d'abord. Alors là, je me reconnais en tant que valeur. Alors qu'avant, il fallait que je démontre ma propre valeur. C'était fatigant. Franchement, c'était pénible. Aujourd'hui, je me rends compte que il n'y avait plus rien. La moindre chose qu'il faut faire, c'est de se taire, rester silencieux. Être content intérieurement, observer, regarder l'autre, et le laisser venir vers moi-même, s'il le veut, mais ne pas l'obliger ni le forcer. Alors qu'avant, il fallait toujours faire plaisir à l'autre, démontrer que tout va bien, alors que c'est faux. Ça ne va pas, c'est de l'illusion, et c'est, comme on dit en gros dans le jargon, faire semblant. J'ai découvert dans le livre aussi, le Saint-Esprit parle du Père semblant. Ne le faites pas. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup. Et ils en souffrent. Depuis que j'ai supprimé ce Père semblant pour faire plaisir à l'autre, ça rejoint à la petite phrase que j'ai découvert. Tu commets des erreurs. Rien qu'en pensant que l'autre se plaidera de toute façon, quelles que soient les choses. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et à travers ça, les angoisses, la peur de voir l'autre venir me parler, franchement, je vous dis, je n'ai aucun souci. Pour tout vous dire, je m'en fiche, comme on dit. Au fond de moi, maintenant, je ne considère plus, je n'attends plus rien de l'autre. Même au contraire, je laisse l'autre venir, mais je ne vais plus chercher, je ne m'interroge plus à mieux faire pour l'autre, parce que je sais Et l'autre est l'enfant de Dieu. Quelles que soient les choses que je vais faire, me comporter et lui dire, et ne rien dire même, ça a une valeur parce que c'est lui qui va me le projeter. Et là, j'en suis très heureux. Je peux vous dire, ne vous inquiétez pas. Tout est beau dans le silence. Rien qu'en demandant au Saint-Esprit. La plupart du temps, j'aime écouter, même le silence, je ressens, il faut agir ou pas. Mais la seule chose que je garde, au fond de moi, c'est la joie. Et l'amour, la paix. Plus je me sens heureux au fond de moi, joyeux, alors tout le reste suit. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup souvent remarqué dans mon expérience, plus je m'attriste, tout ce qui m'arrive devient triste, quelles que soient les personnes. Si au fond de moi, je m'accepte et je confie ma tristesse au Saint-Esprit et je me rends heureux, joyeux pour une petite chose, rien qu'un petit bonjour que j'entends et je réponds avec joie, alors la joie continue toute la journée et je suis dans l'action joyeux, allons-y, réponds joyeux. Plus je donne la joie, je reçois. Voilà ce que je voulais vous faire partager. Je vous remercie.
Alors c'est bientôt l'heure de terminer. Il me vient de partager un petit texte de Yeshua, Jésus, sous la forme énergétique, qui répond à une question de la vie quotidienne qui est très simple et très parlante. Que faire dans une situation où je rentre chez moi et j'ai été cambriolé et ma chaîne stéréo est partie avec le voleur, hein? Comment Yeshua interprète cette situation? Comment pardonner, hein, lorsque on est cambriolé? Alors, il répond, hein, donc j'ai vraiment été touché par cette réponse. Quand je pardonne le voleur qui est parti avec ma chaîne stéréo, je décrète le contraire de ce que j'ai appris, que rien d'une quelconque valeur ne peut m'être retiré, que le jugement est l'opposé de ce que je veux et me fera ressentir à l'opposé de ce que je veux ressentir. Je décrète mon pouvoir de percevoir différemment et ainsi je me guéris. Voilà, ce que j'ai appris, c'est que quelque chose pouvait m'être retiré. Et quand je pardonne, je décrète le contraire. Je décrète que, avec chaîne stéréo ou sans chaîne stéréo, je suis dans la lumière, je suis le Fils de Dieu. Et je peux restaurer la paix là où je pensais que quelque chose pouvait m'être retiré. Voilà, je trouve ça magnifique parce que c'est un exemple de la vie quotidienne, très, très parlant pour moi. Voilà, on va terminer, si ça vous va. On pourra continuer informellement après la clôture de l'enregistrement. Merci pour tous vos témoignages. Merci pour cette présence de l'Esprit parmi nous qui a guidé nos paroles. Et qui a fait que ce qui devait être dit et entendu a été dit et entendu. À une prochaine, je ferme avec un son de gong.